Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Alors que Jésus parle de bâtir l'Église, il va faire cette déclaration en s'adressant à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Il dit, « Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors que Jésus parle de l'Église, comprenez bien que l'Église à laquelle Jésus fait référence, encore une fois, ce ne sont pas les quatre murs. Jésus parle d'un système. Jésus parle d'un ensemble d'individus qu'il a le projet de mettre ensemble et qu'il va appeler son Sénat, sa tour de contrôle, son lieu de pouvoir. Jésus parle à Pierre et il lui dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » En introduction ce matin, je veux attirer votre attention sur le fait que Pierre, auquel Jésus s'adresse et sur lequel il veut s'appuyer pour bâtir l'Église, a besoin de clés. A besoin d'avoir accès à des outils qui vont lui permettre de faire face à la résistance que sera le royaume, le séjour des morts. Ça veut dire qu'en bâtissant l'Église, Jésus est conscient qu'il va y avoir de la résistance, il va y avoir certains blocages. Et Jésus dit à Pierre, « Je vais te donner des clés, des outils pour pouvoir efficacement participer avec moi dans la construction de l'Église. » Alors Pierre, l'apôtre, doit être conscient qu'il y a des choses, des secrets dont il a besoin pour pouvoir réussir la mission à laquelle Dieu l'appelle. J'ouvre ici la parenthèse pour indiquer à quelqu'un que quand Dieu t'appelle, il a à l'esprit le projet de t'équiper. La mission à laquelle Dieu t'appelle demande un équipement surnaturel. Quel que soit ce que Dieu veut faire avec toi, quel que soit ce que Dieu veut faire de toi, Dieu est conscient que tu as besoin de ce que lui seul est capable de donner. Que tu sois un membre du clergé appelé aux cinq ministères ou que tu sois un ministre de l'Église hors de l'Église, tu as besoin de clés. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours à qui je faisais remarquer que ce qu'il est n'est pas suffisant pour lui permettre d'accomplir la mission à laquelle Dieu l'appelle. Je veux que vous notiez, pour ceux qui prennent des notes, que Dieu a fait le choix de te rendre dépendant de lui et des autres pour accomplir la mission à laquelle il t'appelle. Tu ne pourras pas tout seul accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Parce que ce n'est pas l'objet de mon message ce matin, je veux néanmoins, mais rapidement, indiquer qu'en fait, lorsqu'on parle de clé, on parle d'autorité. On parle de pouvoir. Et je suis conscient que chacun d'entre nous, ce que nous voulons dans la vie et que nous mettons sous le label de la réussite ou du succès, ce que nous voulons, c'est avoir le pouvoir, l'autorité. Nous voulons le pouvoir de réussir, le pouvoir d'acheter, le pouvoir de bâtir. Ce pouvoir que je symbolise ou que je mets sous la forme de clé, en réalité est une autorité déléguée. L'une des choses qui me paraît importante de souligner, c'est que l'autorité ou le pouvoir, quel qu'il soit, ce transfert. Dans le cas de figure de Pierre, Jésus lui dit, je te donnerai les clés. Ça veut dire, j'ai les clés dont tu as besoin, je te les donnerai, afin que tu lises sur la terre et que le ciel fasse l'écho de ta voix, que tu délises sur la terre et que le ciel se mette en accord avec ce que tu as dit. Il y a donc des clés que tu dois recevoir pour pouvoir lier et délier sur la terre. En d'autres termes, ouvrir et fermer. Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Le détenteur des clés ne les possède pas uniquement pour son usage personnel. Celui qui possède les clés ne les a pas seulement pour accéder, mais aussi pour donner accès. Ça veut dire que quand Dieu donne les clés à Pierre, il lui dit, tu vas lier ici et le ciel va lier. Tu vas délier ici et le ciel va délier. En fait, Pierre, ce n'est pas juste pour que toi tu entres, mais c'est pour que tu régules ceux qui entrent. Ce n'est pas seulement pour que toi tu fermes, c'est pour que tu régules ce qui ne doit pas entrer. En fait, il y a donc une responsabilité sur celui ou celle à qui les clés sont données, de considérer qu'il n'est plus juste détenteur des clés pour entrer, mais qu'il doit faire entrer d'autres. Est-ce que vous me suivez? Il n'est plus juste détenteur des clés pour fermer, mais ça veut dire qu'il doit empêcher à certaines choses ou à certaines personnes d'avoir accès. Dans le cadre de l'Église, Jésus dit à Pierre, je bâtirai mon Église et je te donnerai les clés. Ça veut dire que les clés que Jésus va donner à Pierre ne sont pas pour son usage personnel, mais c'est pour la construction d'un système. Ecclésia. Donc, quel que soit ce que Dieu te donne, Dieu a toujours à l'esprit son Église. Quel que soit ce que Dieu fait avec toi, Dieu a toujours à l'esprit Ecclésia. Ton enrichissement n'est pas en alignement avec la volonté de Dieu si ton enrichissement n'aide pas à bâtir Ecclésia. Si Dieu t'élève, si Dieu te donne de l'autorité, si Dieu te donne du pouvoir, il le fait pour Ecclésia. Il le fait pour l'Église. En d'autres termes, quand tu es élevé et que tu es en position d'autorité et que l'Église ne bénéficie pas de ton autorité ou de ton influence, c'est qu'il y a un problème dans ta compréhension de ce que Dieu veut faire par toi. Tu ne peux pas recevoir de Dieu des clés si ces clés, au final, ne t'aident pas à bâtir l'Église. Il y a ce texte que vous connaissez, je prends mon temps ce matin, il y a ce texte que vous connaissez, c'est la reine Esther. Elle s'appelait Hadassa, elle est devenue Esther. Et alors qu'elle est en position d'autorité, en position de force, il y a une menace qui plane, un décret qui a été fait sur ceux qui sont hors du palais. Et ce décret vise à tuer, à décimer le peuple juif. Esther est en sécurité parce qu'elle est l'épouse du roi. Mardoché aussi est en sécurité parce qu'il est au palais. Mais sauf que Mardoché attire l'attention d'Esther en lui disant, c'est pour des temps comme ceci. C'est une question qu'il pose, mais je la change en déclaration. Il dit, c'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a fait parvenir à la royauté. Ça veut dire que la position a toujours un but. La position a toujours un objectif. Dieu t'élève pour un temps précis, pour une mission précise, pour un objectif précis. Et l'une des choses qui fait donc que certaines personnes ne soient pas stables ou ne soient pas maintenues en autorité ou en pouvoir, c'est que la mission pour laquelle Dieu les a élevées, ils ne sont pas d'accord de l'accomplir. Ce qui soutient ton trône, c'est l'autel. Si l'autel n'est plus le soutien de ton trône va s'écrouler. Ce qui soutient ton pouvoir, c'est l'objectif, c'est le dessein, c'est le projet de Dieu. Et Dieu dit par Christ, je bâtirai mon Église. Un système, je vous lis ce que j'ai écrit, un système permet la longévité d'une vision. Là où un homme s'arrête, le système peut continuer. Le système doit toujours être plus grand que les individus qui le composent. Je vais prendre un exemple lié à vos vies et je reviendrai sur l'Église. Dieu te donne une vision de créer une affaire. Quand la structure prend du volume, à un moment, tu dois réfléchir au fait de déléguer et d'emmener dans la vision des personnes qui sont d'accord de s'approprier la vision et de poursuivre la vision que Dieu t'a donnée à toi. Dès le moment où la vision dépend totalement de toi, la vision est limitée par ta présence, par ton influence. C'est ce qui fait que lorsque tu veux l'étendre, tu as une entreprise ici, mais que tu veux l'étendre à Port-Gentil, soit tu empower, soit tu équipes quelqu'un pour aller implanter la vision à Port-Gentil, soit tu te déplaces toi-même pour aller à Port-Gentil et pour implanter la vision. Vous êtes là? Si quand tu te déplaces à Port-Gentil, le système à Libreville s'écroule, c'est qu'en réalité, tu n'as pas bâti un système. Normalement, ton système doit devenir plus grand que toi. De telle sorte que là où, quand tu n'es pas là, le système continue quand même à évoluer. Est-ce que vous m'entendez? Le problème avec plusieurs, c'est que nous ne construisons pas des systèmes. Nous réfléchissons individus. Donc lorsque l'individu tombe, le système tombe. Lorsque l'individu s'arrête, le système s'arrête. Mais ce que Jésus bâtit, il le bâtit en étant absent physiquement. Il s'est investi dans des hommes à qui il confie la vision et il leur dit, voici ce que je veux que vous fassiez. Maintenant qu'il n'est plus là, la preuve de son investissement se démontre dans le fait que son absence ne bloque pas la croissance du système. Dans le cadre de l'Église, l'Église doit donc être plus forte que les individus qui la composent. Sinon, le jour où l'individu tombe, l'Église, le système tombe avec lui. C'est lorsque l'évêque général n'est pas là. Les cultes s'arrêtent. C'est qu'en réalité, CRN n'est pas un système viable, fiable, qu'on peut pérenniser. Lorsque l'évêque général n'est pas là, le système doit continuer. Les cultes doivent continuer. Vous êtes là ou pas? Lorsque l'évêque Michel n'est pas là, les cultes doivent continuer. Pourquoi? Parce que normalement, tel que nous avons bâti le système ne repose pas sur un individu. Le système repose sur une équipe. Donc, j'aimerais vous parler du mystère, de l'utilité. Jésus, ce jeune homme de 30 ans, est en train d'avoir un échange avec ses disciples qui se transforme en une réunion stratégique. Jésus passe de la gestion de crise à la gestion des relations entre frères pour aboutir sur la foi. Et contre toute attente, comme lui seul en a le secret, il utilise un exemple pour illustrer ses propos qui est entouré de mystères. J'insiste encore une fois sur le fait que si Dieu, si les esprits veulent vous dire quelque chose, ils vont l'entourer d'un nuage. Ils vont le mettre derrière la porte du mystère. Le seul moyen d'avoir accès à ce que Dieu veut dire, c'est d'utiliser la clé de la révélation. Ici, ce jeune leader juif parle bien de foi. Mais il parle d'un sujet qui, de mon point de vue, est majeur. Il parle du sujet de l'utilité. Et voici le verset 10. Je vais le relire, mais ça m'a dérangé. Il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Le mot inutile est utilisé par Jésus pour qualifier des disciples qui font ce qu'ils devaient faire. Pour la plupart d'entre nous, on utilise le terme inutile pour définir quelqu'un ou quelque chose qui ne présente pas d'utilité pratique. On utilise le mot inutile pour parler de quelqu'un ou de quelque chose qui ne sert à rien, qui n'apporte rien, qui n'a pas de justification extérieure, qui n'existe pas en fonction d'un but déterminé et qui n'obtient aucun résultat. Mais Jésus, s'adressant aux disciples qui ont tout quitté pour le suivre, dit que lorsqu'ils font tout ce qui leur a été ordonné, ce sont des serviteurs inutiles. Voici ce que je veux que vous notiez et on va discuter. You gotta change. Pour Jésus, un serviteur inutile, c'est quelqu'un qui fait tout ce qui lui a été ordonné. Je parle doucement parce que je veux que vous notiez. Pour Jésus, un serviteur inutile, c'est quelqu'un qui fait tout ce qui lui a été ordonné. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, si tu fais tout ce qu'on t'a ordonné, tu es inutile. Tu es inutile. Donc je veux parler de l'excellence et de l'utilité. Je commence par l'excellence. Comment vous définissez l'excellence? Aidez-moi. Synonyme du mot excellence. Parfait, bien fait, très bien fait, qualitatif, quelqu'un d'autre? Habile, excellent, habile, quelqu'un d'autre? Méticuleux, irréprochable, diligent. La première chose sur laquelle je veux attirer votre attention, dans le contexte de ce texte, et je parle toujours de bâtir l'Église, mais cette fois-ci je m'adresse à vous en disant que nous devons bâtir l'Église. Il y a des clés, il y a des principes qu'on doit connaître. En ce qui concerne la construction de l'Église, nous devons être d'accord de faire selon le modèle. Ça veut dire que l'Église ne se bâtit pas comme on veut. L'Église se bâtit selon le modèle. Maintenant, si l'Église se bâtit selon le modèle, ça veut dire que la première chose, avant même que je ne rentre dans l'utilité, c'est que nous devons être d'accord d'obéir à des instructions. Celui qui a le modèle a la responsabilité de veiller à ce que ceux qui construisent le fassent selon les instructions qu'ils donnent. Dans le cadre de Jésus, Jésus révèle que ces gens-là, on les appelle des serviteurs. Ça veut dire que ne peuvent finalement construire que ceux qui acceptent d'obéir à des ordres. Qui a déjà été à la tête d'un chantier? Est-ce que vous savez que celui qui bâtit le chantier, ce n'est pas d'abord le maçon, ce ne sont pas d'abord les ouvriers. Celui qui bâtit, c'est celui qui a la vision. Même si après il va dire « j'ai construit la maison », en vrai, il n'a pas construit manuellement, il l'a construit avec la vision. Donc celui qui construit, c'est celui qui a le blueprint, c'est celui qui sait ce qu'il veut voir, ce qu'il veut réaliser. Qui a dit « mon plan ». D'accord, c'est celui qui a le plan. Maintenant, ceux qui l'aident à accomplir la vision, ceux qui l'aident à bâtir la vision, ce sont des ouvriers. Come on. Et donc, les ouvriers ne peuvent pas construire selon leur modèle. Les ouvriers doivent construire selon le modèle de celui qui a la vision. Donc, c'est bizarre de voir un maçon décider que finalement la porte ne sera pas là. Les toilettes ne seront pas là. Vous êtes là? Les fenêtres ne seront pas là. Normalement, quelles que soient les années d'expertise que le maçon a, son expertise ne sert à rien s'il ne s'aligne pas à la vision. D'accord? Donc, quels que soient les talents, les capacités qui sont les tiennes, quand Dieu t'enjoint à construire l'Église, tu dois t'assurer que tu la construis selon la vision, selon le modèle. Et Dieu donne la vision ou le modèle à Pierre, au leader. Est-ce qu'on est ensemble? D'accord. Jésus révèle. Il dit, qui de vous, ayant un ouvrier, un serviteur, qui l'a envoyé dans les champs, quand il revient, va lui dire, mets-toi à table. La première chose, c'est que lorsque l'ouvrier revient des champs, quand bien même, c'est le verset 7 si je ne m'abuse, quand bien même il a travaillé dans les champs, quand il rentre, sa responsabilité première, c'est d'abord de veiller sur celui qui a la vision. D'accord. Donc ça veut dire que les ouvriers, les serviteurs de Jésus, ne cherchent pas à manger en premier. Les serviteurs de Jésus sont conscients que la première chose qu'ils doivent faire, quand bien même ils travaillent dans les champs, c'est de veiller à ce que dans la maison, le maître mange. N'est pas bien. En premier. Donc, j'envoie Josué au champ. Josué revient. La première chose que Josué fait quand il rentre à la maison, s'il est serviteur, c'est de demander, maître, est-ce que tu as? Et si je n'ai pas mangé, Josué fait quoi? D'accord. Je peux vous aider ce matin? Vous tous, vous êtes des ouvriers de Christ dans sa moisson. Dehors, c'est le champ. On est là? Dehors, c'est? Quand vous rentrez ici, c'est la maison. Donc, dehors, tu es un ouvrier. Mais quand tu rentres à la maison, tu dois servir. Et donc, ça veut dire que ceux qui ont la logique de Christ comprennent que quel que soit ce qu'ils font dehors, quelle que soit la tâche, quel que soit le travail, quelle que soit la mission dehors, quand ils viennent à la maison, ils ne viennent pas pour être servis d'abord. Ils viennent pour... D'accord, regarde la personne à côté de toi, dis-lui, quand tu viens ici, tu ne viens pas d'abord pour être servi. Tu viens pour servir. Cherche un autre voisin et j'aimerais que tu lui dises la même chose. Dis-lui, quand tu viens ici, que tu sois avocat, que tu sois docteur, que tu sois ministre, que tu sois député, que tu sois médecin, que tu sois artiste, quand tu viens dans la maison, tu viens d'abord pour servir, pas pour être servi. Cherche un dernier voisin et dis-lui, quand tu viens ici, quel que soit ton titre, quelle que soit ta fonction dehors, quand tu viens dans la maison, tu viens d'abord pour servir et pas pour être servi. Donne-moi un amen qui ressemble à ta parole.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.